Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Au milieu du XXe siècle apparaissait aux États-Unis un mot au parfum aujourd'hui désuet qui fleure bon la science-fiction, la cybernétique. Derrière ce néologisme se cache une idée vertigineuse, celle selon laquelle on pourrait nourrir les machines non plus seulement de carburant, mais bien d'information. Pour ce faire, encore faut-il édifier une théorie de l'information et une science du fonctionnement de l'esprit, autant dire bouleverser notre rapport à l'idée même de la pensée et de ses mécanismes. Science Chrono remonte aujourd'hui à la source de la cybernétique qui a posé les premiers jalons des réseaux de neurones et des systèmes d'intelligence artificielle. Bonjour Pierre Kasounogas.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, écrivain, professeur à l'Université Paris 8 et membre de l'Institut Universitaire de France. Vous avez publié, entre autres livres, le livre intitulé « Les rêves cybernétiques » de Norbert Wiener, paru aux éditions du Seuil en 2014. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Science Chrono pour nous décrire les itinéraires empruntés par cette cybernétique qu'on pourrait qualifier à la fois de champ d'étude et de courant de pensée qui a posé la première pierre de la révolution que nous vivons actuellement avec le développement des systèmes d'intelligence artificielle. Avant de nous plonger dans ces méandres, je vous donne le menu de la seconde partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, à l'occasion de l'année scientifique de l'âge du bronze, nous partirons à la découverte de cette période méconnue et nous ferons la visite d'une belle exposition qui se tient en ce moment et jusqu'au 21 septembre 2025 au musée Anne de Beaujeu de Moulins-sur-Allier. Une exposition intitulée « L'Odyssée du bronze à la rencontre des premiers Européens ». Ce sera donc tout à l'heure en deuxième partie. Mais avant cela, retournons à une période plus récente et à cette cybernétique qui va nous occuper dans la demi-heure qui vient, Pierre Kasounogas, avant de lever le capot théorique de cette science et d'en comprendre les concepts clés. Il nous faut présenter l'un de ses fondateurs, un personnage assez éminent qui s'appelle Norbert Wiener, auquel vous avez consacré un livre. Qui était-il? Dans quel cadre est-il né?
Alors, Norbert Wiener est né aux États-Unis en 1894 et c'est au départ, et donc il fait des études de mathématiques. Il est très très lié à son père, hein. Il écrira une autobiographie en 2 tomes dans lequel il parle beaucoup de son père. C'est un enfant prodige, hein. Il passe l'équivalent du baccalauréat à 11 ans, il me semble. Il a sa licence à 14 ans, il finit sa thèse à 17 ans. Et il va donc se lancer, c'est un pionnier des mathématiques appliquées. C'est-à-dire, c'est une époque où voilà, les mathématiques les plus prisées, ce sont des mathématiques très pures. Et lui, donc, va se lancer dans des mathématiques appliquées. Et son parcours est aussi lié à celui de son université, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, quand il y entre, juste après la Première Guerre mondiale. C'est vraiment une petite école d'ingénieurs qui n'a rien à voir avec les grandes universités qui l'entourent, en particulier Harvard. Et ben, le MIT va se développer avec ses sciences appliquées et Norbert Wiener en est un des moteurs. Et donc, entre les deux guerres, il fait des mathématiques appliquées. Le grand résultat qu'il obtient concerne le mouvement brownien. Donc le mouvement brownien, donc c'est l'exemple que prend Wiener. Hein. Vous imaginez quelqu'un complètement ivre au milieu d'un stade de football. Hein. Et donc,
L'imagine bien. Oui.
Il fait un pas dans une direction et il titube. Hein, un pas dans une direction, un pas dans une autre. Une question qu'on peut poser, c'est combien de temps va-t-il mettre pour franchir les limites de ce stade de football? Voilà, le mouvement brownien, c'est une particule qui est soumise à des impulsions aléatoires. Qu'est-ce qu'elle devient? Donc, il obtient des résultats très importants, donc vraiment appliqués là-dessus. Et donc, il est un mathématicien appliqué, de première classe, vraiment. Il voyage beaucoup entre deux guerres. Il va dans des pays dans lesquels les Européens ou les Américains vont peu à cette époque, comme en Chine, au Japon, beaucoup en Europe aussi.
Et il a étudié d'ailleurs en Europe, à Cambridge, à Göttingen, qui sont des universités quand même assez capitales en Europe, sous le patronage quand même du philosophe et mathématicien à Cambridge, Bertrand Russell, et sous le patronage de David Hilbert, qui est quand même l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle à Göttingen. Donc il était quand même parrainé par des pointures d'un très très grand niveau.
Voilà, absolument. Il s'entend pas très bien avec eux. Mais effectivement, il fait un tour d'Europe des mathématiques. Voilà. Et après la guerre, donc pendant la guerre, on lui dit qu'on lui L'histoire dit qu'on lui propose plus ou moins de faire partie du projet de Los Alamos, de la bombe atomique, mais qu'en fait, il est très bavard et très distrait. Et
il n'arriverait pas à garder le secret.
Et donc, ce serait difficile de lui confier des secrets. Donc, il n'y participe pas. Mais il est très marqué par le fait que l'un des résultats qu'il a obtenu dans le milieu des années 30 est utilisé dans la bombe atomique. Et pour lui, c'est vraiment une rupture dans sa vie, dans sa carrière. Et après donc Hiroshima et Nagasaki en 1945, en août 45, dans un premier temps, il veut arrêter sa carrière scientifique. Il veut se retirer dans sa ferme du New Hampshire pour cultiver des légumes. Et à la réflexion, il va revenir, il va garder son poste au MIT, revenir dans la science, mais avec l'idée qu'il faut prévenir le public des dangers des nouvelles machines. Mmh. Et alors, les nouvelles machines, c'est pas la bombe, parce que la bombe, chacun sait quels sont les dangers de la bombe à partir de ce moment-là. Ce sont les machines à calculer, les nouveaux ordinateurs et ce qu'il appelle des machines à rétroaction. Et là, il entre dans une toute autre période de sa carrière dans laquelle il ne fait plus vraiment de mathématiques, en fait, ou plus comme avant. Il se lance dans une autre discipline, la cybernétique, qui, donc, dès le début, est liée à l'idée d'une science qui est à la fois hyper puissante et hyper dangereuse.
Et avec tout le lot de mise en garde qu'on va décrire ensemble, Pierre Cassounogas, il n'est pas tout seul, bien sûr, à s'intéresser à cette idée de machine pensante, ce Norbert Wiener. Il faut décrire le cadre aussi dans lequel il s'intègre, le cadre intellectuel aux États-Unis dans ces années 40, dans ces années de Seconde Guerre mondiale, avec ces fameuses conférences de Macy qui voient se rencontrer des chercheurs venus de plein d'horizons différents. On a des anthropologues, des psychiatres, des logiciens, des philosophes, voilà, tout un tas de disciplines qui se posent quelles questions concrètement autour de ce rapport entre l'humain et la machine ?
Alors, qui se posent beaucoup de questions et des questions qui parfois qu'il est un peu arbitraire. Oui, obscur et puis parfois arbitraire d'essayer d'unifier dans une seule problématique. Ces conférences, donc, qui commencent, alors la première, c'est un symposium de 1943, donc la guerre n'est pas finie, et puis qui vont aller jusque dans les années 60. Wiener lui-même arrête d'y participer au milieu des années 50 et il meurt en 1964. Voilà, cette immédiate après-guerre donc est marquée par la bombe. L'idée qu'avec la science, on peut énormément pour le meilleur et pour le pire.
C'est un peu la fin de l'innocence des scientifiques, entre gros guillemets, puisque la science a déjà eu des routes, d'une certaine façon, morales, on va le dire, de cette façon-là. Mais là, c'est vraiment, ça acte le fait qu'il faut se méfier aussi,
voilà,
d'une certaine
exactement.
Façon.
Exactement. Et aussi que peut-être tout n'est pas possible, mais beaucoup est possible. Oui. Très vite. Et donc, voilà, les conférences Macy concernent vraiment le rapport, vous l'avez dit, entre l'humain, le vivant et la machine, qu'il s'agit, pour le dire très vite, de considérer dans une seule théorie à partir de nouveaux concepts. Et ces nouveaux concepts, il y a l'idée de calcul et de machine à calculer. Donc le calcul, c'est un concept un peu plus ancien, qui est marqué par Turing en 1936-37, mais qui, d'une certaine façon, se matérialise parce que après la guerre, on voit apparaître les premiers ordinateurs, donc des machines à calculer surpuissantes, si l'on veut. Donc, les ordinateurs, l'idée de calcul, l'idée de rétroaction. Donc, la rétroaction, en anglais, feedback, c'est un concept sur lequel Wiener va beaucoup insister et qui distingue, en fait, qui fait le cœur, quand même, de la cybernétique et qui est...
D'ailleurs, on peut peut-être s'arrêter deux petites secondes, oui. Pierre Cassounogas, excusez-moi de vous interrompre, mais sur ce terme cybernétique, sur son étymologie, sur ce néologisme, qu'est-ce qu'il veut dire de façon très première ?
Oui, alors, la cybernétique, c'est la science du contrôle chez les humains, les machines et les vivants. Donc, le mot d'un mot grec qui veut dire gouvernail, en fait, est tiré d'une petite partie des machines à vapeur qui, justement, leur permet d'avoir une rétroaction. Donc, qu'est-ce que c'est cette rétroaction ? La rétroaction, c'est la capacité à modifier ses gestes au vu ou ses actions au vu de leurs résultats. Hein, donc par exemple, pour les machines à vapeur, lorsque la machine, le gouvernator en anglais, c'est une petite boule qui se trouve, qui est liée à la soupape et qui, quand la machine va trop vite, par la force centrifuge, va s'écarter de la machine et soulever la soupape, de sorte que la vapeur va s'échapper et la machine va ralentir.
Ce qui fait que la machine aura une forme d'autonomie et de capacité d'autorégulation.
Voilà, exactement, d'autorégulation. La capacité à se corriger elle-même. Hein, de la même façon, j'essaye d'attraper ma tasse. Je pose la main un peu trop à gauche, et ben si j'ai des caméras, je le vois et je peux rapprocher ma main de la tasse. Et puis peut-être que si je suis donc un robot, hein, ou d'ailleurs si j'ai des maladies neurologiques, je peux, en essayant de rapprocher ma main de la tasse, je peux en fait la renverser ou la mettre beaucoup trop de l'autre côté. Hein. Et donc je vais devoir aller du coup cette fois-ci sur la droite, et peut-être que je vais encore m'en écarter plus. Donc la rétroaction peut s'étudier mathématiquement. C'est donc la capacité à corriger ses gestes ou ses actions au vu de leurs résultats. Et elle fait l'effet, elle peut être soumise à une théorie mathématique. Et l'idée de Wiener est que Wiener donc essaye de mettre en place un canon à rétroaction pendant la guerre qui en fait marche pas, mais il en tire ce concept et il a l'idée, avec d'autres collaborateurs, hein, mais il a l'idée que ce concept permet de donner aux machines un comportement téléologique comme les vivants. C'est-à-dire que la machine pourvue de rétroaction, qui corrige donc ses actions, semble avoir un but comme un être vivant. Et c'est pour lui un exemple d'un concept hein, qui donc peut s'appliquer de façon uniforme à des humains, des vivants, des machines. Et ça, c'est le cœur de la cybernétique. L'idée qu'on va pouvoir traiter dans une même théorie, avec les mêmes concepts, ces différentes catégories d'êtres. Et que donc, on ne dit pas...
L'idée n'est pas de mettre sur le même plan humain et machine. Si
voilà, il ne s'agit pas de dire que les humains sont des machines. Pas du tout. Et il s'agit de montrer qu'on peut dire beaucoup des humains et des machines avec les mêmes concepts. Hein, quand, finalement, en utilisant les mêmes concepts, on va en apprendre sur les machines comme sur les humains et les vivants. Et le troisième concept, qui est peut-être un peu moins important, c'est celui d'information.
Alors celui d'information, il est bien sûr présent dans l'idée d'informatique. Là, on parle de ses travaux, de Norbert Wiener, qui fait paraître en 1948 le livre fondateur de la cybernétique. Alors en anglais, le titre c'est « Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine », ce qui donne en français « La cybernétique, information et régulation dans le vivant et la machine ». Que contient à peu de choses près ce livre, Pierre Kasounoguès? Quels sont les éléments clés? C'est déjà ces concepts-là de rétroaction et
oui,
d'information,
voilà, C'est trois concepts, hein, ouais. Rétroaction, information, l'idée du calcul aussi. Mais donc il y a une théorie mathématique de l'information. Hein, Wiener met en place une théorie de l'information qui n'est pas exactement celle de Shannon, mais comparable. Ou pour le dire très vite, hein, l'information est liée à la probabilité d'un message, mais inverse. C'est-à-dire que si un message est très probable, si vous savez à l'avance ce que je vais dire, c'est très probable, vous n'avez pas d'information sur ce que je vais dire. Inversement, plus le message est inattendu, plus ça vous dit quelque chose. Donc voilà, l'information est liée mais négativement à la probabilité d'un message. Bon, Wiener en fait une théorie. Donc, le livre présente ces différentes théories mathématiques, hein, un peu de calcul, mais surtout feedback, rétroaction, donc c'est-à-dire rétroaction et information. Mais ce qui va rendre Wiener immédiatement très célèbre dans l'Amérique des années 50, c'est en fait l'introduction du livre, dans laquelle Wiener veut prévenir le public des dangers de ces machines qui sont en train de naître.
Quel danger identifie-t-il?
Et alors là, c'est une introduction qui relève de la science-fiction. Hein, Wiener, en fait, est persuadé que ces nouveaux éléments vont permettre de mettre en place ce qu'il appelle des usines automatiques. C'est-à-dire des usines dans lesquelles il n'y aura plus d'êtres humains, ou très très peu pour faire des réparations. Et il est persuadé que ces usines vont voir le jour, dit-il, dans les 15 prochaines années. Hein, donc 1948, ça fait 1963. Et il décrit, en fait, le monde qui sera le nôtre ou le leur si on ne fait rien. Hein, et c'est-à-dire, dans le système capitaliste américain des années 50, s'il n'y a plus de travail, eh bien, il y aura un chômage de masse, il y a un problème social et économique, mais pour Wiener, il y a aussi un problème idéologique. C'est-à-dire, en admettant même qu'on arrive à comme le dit beaucoup plus tard, récemment Bernard Stiegler, si on arrive à distribuer le loisir produit par l'automatisation, il reste aussi idéologiquement à accepter de ne pas travailler. C'est pas si facile. Oui, je pense que là, Wiener a tout à fait raison. Donc, Wiener décrit un monde de science-fiction dans lequel il y a plus de travail et les gens sont désœuvrés. Et son idée, c'est que on a, avec l'automatisation, avec ces trois concepts et les machines qui les matérialisent, un danger comparable à celui de la bombe atomique. Et pour Wiener, les savants n'ont pas su empêcher la bombe atomique ou son usage. Et ça, Wiener est très clair que pour lui, c'est une erreur,
une tâche,
un crime, vraiment, voilà, ouais. D'avoir utilisé la bombe atomique. Les savants n'ont pas pu l'en empêcher, mais voilà, ils doivent faire que l'automatisation viennent du bon côté. Et alors, voilà, c'est là où les formulations de Wiener, bon, il y a aussi toute une série par la suite d'autres éléments, mais c'est là où les formulations de Wiener sont assez ambiguës, parce que d'un côté, c'est vrai que l'automatisation a progressé, et elle progresse en ce moment, particulièrement avec les IA, et en même temps, le monde que décrit Wiener, c'est un monde de science-fiction, c'est-à-dire aujourd'hui et a fortiori en 1963, il n'est pas vrai que l'automatisation soit complète, que plus personne ne travaille, c'est pas vrai.
Mais c'est vrai que Pierre Kasounogas, Wiener, il a quand même toujours ce côté un peu prophétique. En 1950, paraît un livre qui s'appelle Cybernétique et Société, qui est un peu la version expurgée de ce premier ouvrage de 48 que je mentionnais tout à l'heure. Et dans ce livre, il dit la chose suivante en introduction, il dit « La thèse de ce livre est que la société ne peut être comprise que par une étude des messages et des dispositifs de communication qu'elle contient. Et que dans le développement futur de ces messages et de ces dispositifs, les messages entre l'homme et les machines, entre les machines et l'homme et entre la machine et la machine, sont appelés à jouer un rôle sans cesse croissant. » Là, on y est. Et c'est surtout très intéressant qu'il pense déjà aussi à ces messages échangés entre les machines elles-mêmes.
Oui, c'est un passage justement très intéressant qui n'est pas directement lié à l'automatisation, mais bon, qui illustre cette idée d'une théorie dans laquelle machines, humains et animaux sont sur le même plan. Et dans ce passage, en fait, c'est un aspect vraiment où du coup Wiener anticipe vraiment le monde d'aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que fait Wiener ici? Il pense à quelque chose comme les réseaux sociaux. C'est-à-dire, à l'époque de Wiener, en fait, la communication, elle est essentiellement polaire. C'est-à-dire, il y a un pôle émetteur, par exemple la télévision, qui distribue à une multitude de récepteurs. Et ce que Wiener anticipe, c'est justement une société dans laquelle la communication se fait surtout entre des éléments sur le même plan, qui peuvent être humains, qui peuvent être des machines, comme on a typiquement sur un réseau social, on a à la fois des humains, mais aussi ce qu'on appelle des bots, qui envoient des messages. Et Wiener comprend très bien, et vraiment en anticipant là le monde d'aujourd'hui, comprend très bien que le passage à une telle communication modifie en fait le type de message qu'on peut entendre. Et en fait, il dit que dans ce même livre, Cybernétique et Société, qui en fait en anglais s'appelle L'usage humain des êtres humains, The Human Use of Human Being, voilà, les messages qui vont pouvoir circuler dans un tel réseau non polaire, eh bien, ça va être ce qu'il appelle des clichés. Et alors, voilà, on appellerait ça des mèmes aujourd'hui. En quoi ça consiste? En fait, c'est difficile à savoir, mais il y a certains messages qui passent mieux que d'autres.
Alors, on en revient à cette idée, à cette genèse de la cybernétique. Pierre Kasounogas, on l'a compris, c'est un courant de pensée assez complexe qui va mobiliser des concepts multiples dans d'autres disciplines. On n'a pas parlé de l'entropie, de l'homéostasie, qui sont des concepts de la physique et de la biologie, qui pensent l'équilibre et le désordre et qui vont essayer justement d'empêcher cette nature, cette tendance naturelle qu'ont les humains, enfin les espèces vivantes, mais aussi les machines à tendre vers plus de désordre. On parle de machine, mais alors du coup, c'est quoi la machine type de la cybernétique, Pierre Kasounogas?
Alors ça dépend comment on l'entend, et c'est effectivement aussi l'ambiguïté de la cybernétique. C'est-à-dire que la cybernétique, c'est une théorie. Et une théorie qui se situe entre la science et la science-fiction et la philosophie. Mais la cybernétique ne produit pas vraiment de nouvelles machines. Elle produit des idées, des images.
Ça ne sort pas du bureau, finalement. Ça ne sort pas du laboratoire.
Et les machines sur lesquelles Wiener travaille sont ou bien des machines de spectacle, en fait, ou bien des échecs. Par exemple, il est très fier dans son livre, il parle beaucoup d'un gant qui... c'est un gant gros comme une valise, mais qui permettrait à quelqu'un qui est sourd de percevoir sous forme de picotement les modulations de la parole. Et en fait, ça marche pas. Parce que la parole humaine, dans un même ordre de fréquence, on a énormément de variations qu'en fait, on n'arrive pas à rendre assez précisément sous forme de picotement sur les doigts. Donc, ça marche pas. Une machine qui va être un peu le symbole de la cybernétique, ce sont les tortues qu'invente un savant anglais, Walter Gray Walter, qui sont des petites machines sur roulettes très très simples qui sont en fait attirées par la lumière. Il y a simplement une cellule photoélectrique et la tortue avance dans la direction de la lumière. Et alors si on les complique un peu, si par exemple on les rend sensibles à la lumière, mais on met sur chacune une petite lumière. Elles vont avoir, semble-t-il, des comportements sociaux, etc. Ou Wiener, il y a une pièce de théâtre, une représentation théâtrale à Boston, aux États-Unis, et Wiener fait l'introduction en arrivant sur scène et il guide avec sa lampe de poche une de ces machines.
De ces tortues de Bristol.
Voilà. Donc ce sont des machines de spectacle, mais qui n'ont pas d'intérêt technique.
Alors, puisqu'on parle de ces machines hypothétiques aussi, de la cybernétique, je vous propose qu'on écoute notre archive sonore du jour. En 1957, le mathématicien François Le Lyonnais pensait au futur de ces machines directement inspirées de la cybernétique. Des machines, capables d'écrire automatiquement des textes littéraires. C'était dans l'émission La Tribune du Progrès, intitulée Les extraordinaires réalisations de la cybernétique. C'était diffusé le 28 mars 1957 sur la RDF.
Nous aurons certainement des machines à lire à haute voix des textes écrits, et réciproquement. Mais le problème est différent, cependant. Des machines à écrire des textes dictés. On possède déjà tous les éléments qui permettront de construire des machines que l'on appelle Markoviennes, du nom du mathématicien russe qui, il y a plus de 40 ans, avait fait une étude mathématique du poème de Pouchkine, Eugène Onieguin. Ces machines seraient capables, ne sursautez pas, d'écrire automatiquement des romans ou des textes littéraires.
Mais quelle serait la valeur de ces textes ?
Très grande d'un certain point de vue, complètement nulle d'un autre. Ce seraient des textes parfaitement intelligibles et qui plairaient beaucoup au grand public, mais des textes complètement dépourvus d'originalité. C'est justement ce qui fait leur valeur pour le critique littéraire et pour l'esthéticien, qui pourrait étudier scientifiquement le mécanisme de la banalité et du lieu commun.
Mais comment de telles machines peuvent-elles fonctionner ?
En gros, le fonctionnement de ces machines serait basé sur la statistique. On leur donnerait un certain nombre de textes à lire, avec des cellules photoélectriques. J'entends par là qu'elles dresseraient un fichier en attribuant à chaque mot différent du texte une fiche. Ensuite, elles noteraient quels sont les mots suivants qui reviennent le plus fréquemment. Et sans entrer dans d'autres détails qui nous prendraient trop de temps, vous pouvez peut-être imaginer que donnant ensuite un mot à ces machines, elles pourraient sortir la fiche de ce mot, l'écrire, déterminer ensuite le mot suivant qui viendrait tout naturellement, puisqu'il a l'habitude d'être celui qui vient le plus fréquemment dans les textes qui lui ont été soumis.
Voilà Pierre Kasounogas, la voix de François Le Lyonnais. Il avait vu pas mal de choses et puis il s'était trompé aussi sur d'autres éléments.
Oui, alors c'est une archive étonnante et étonnante parce que donc Le Lyonnais, qui est un mathématicien, mais très lié à des groupes littéraires comme l'Oulipo, très lié à Queneau, voilà, imagine donc cette machine qui procéderait statistiquement pour produire du banal. Et voilà, c'est exactement ce que font les IA génératives aujourd'hui. Alors, elles ne procèdent pas, ce n'est pas exactement des chaînes de Markov. Leurs éléments statistiques, ce ne sont pas exactement des mots, ce sont des parties de mots qu'on appelle des tokens. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire, ce sont des machines, on parle parfois pour nos IA génératives de perroquets stochastiques, ce sont des machines qui font les chaînes linguistiques les plus vraisemblables et qui donc font du banal. Et c'est une c'est une anticipation tout à fait extraordinaire de Le Lyonnais, extraordinaire aussi parce que il comprend donc très bien le principe technique et en même temps, à mon sens, il y voit une sorte dans ces machines à écrire ou à parler. À faire du banal, il y voit une sorte de curiosité littéraire, en fait, qu'on va pouvoir étudier, et il ne se rend pas compte de la place qu'elles sont susceptibles de prendre dans nos vies. Qu'en fait, une grande partie de nos paroles, de nos écrits, sont de ce langage banal, et que donc la machine est parfaitement capable d'imiter. Et voilà, et ce qui nous met aujourd'hui vraiment devant un problème, je pense, très important pour pour le langage et notre rapport à l'écrit en particulier. Donc c'est vraiment une archive qui est à la fois pleine d'anticipation et avec ce côté un peu ironique, qui ne prend pas la mesure du danger que représente cette machine.
Alors, Pierre Kasounogas, on ne l'a pas dit, mais quand même, la cybernétique, c'était un vrai courant qui a eu une envergure quand même très importante dans ces années 50-60. Enfin, à partir des années 60, ça tombe en désuétude. Alors, qu'est-ce qui va faire que la cybernétique va sortir un peu des radars à partir de ce milieu des années 60, à partir en gros de la mort de Norbert Wiener?
Oui, alors on disait tout à l'heure que la cybernétique n'avait pas produit de machine et qu'elle produisait des idées. Mais l'une des idées très très importantes qu'elle a produites, c'est celle de réseaux neuronaux. Pas avec Wiener, c'est son deux collègues.
On avait consacré une émission entière justement.
Maculo et Pitts, mais vraiment dans l'optique de la cybernétique. Et ce sont ces réseaux qui sont utilisés aujourd'hui. Mais en 1951, il y a en fait un groupe de dissidents qui se forment. Essentiellement, ce sont en fait des élèves des pères de la cybernétique, mais qui vont fonder l'intelligence artificielle. Et ce mouvement de l'intelligence artificielle, en fait, c'est ce mouvement qui va prendre le dessus et
qui va connaître ensuite, bien sûr, des rebonds avec le développement des technologies et, bien sûr, le développement des capacités de calcul des ordinateurs à partir des années 80. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Pierre Kasounogas, d'être venu nous raconter ce premier moment de la cybernétique. On peut prolonger cette histoire en vous lisant. Les rêves cybernétiques de Norbert Wiener, c'est paru au Seuil en 2014. Et on peut lire aussi Les images pyromanes, coécrit avec Gwenola Wagon. C'est paru chez UV Éditions.